but you. I wanna be loved by you alone. Boop-boop-be-doo.
Page à page, l'émission du livre, proposée et présentée par Claire Ambille.
Adiciat et bienvenue dans votre émission Page à Page sur Radio Occitanie, où nous nous retrouvons après la période de vacances. Alors j'espère que vos vacances ont été agréables, que vous êtes reposés, amusés, que vous avez profité des enfants, de la famille, des amis, et peut-être si vous avez eu un peu de temps, lire un ou deux livres. Et surtout que vous avez fait le plein d'énergie et de bonne humeur pour cette nouvelle rentrée qui s'annonce. Quant à moi, j'ai passé de bonnes vacances, j'ai lu quelques livres dont je vais vous parler dans un instant. Et au cours de mes balades, j'ai rencontré un clown musicien fort sympathique et un poète voyageur fort romantique qui peut-être m'écoutent tous les deux ce matin. Voilà, donc deux nouveaux auditeurs pour Page à Page. Et aujourd'hui, c'est Marc qui me fait la technique. Merci Marc. Roger reviendra la semaine prochaine. Je profite de cette reprise pour les nouveaux auditeurs et les nouvelles auditrices pour dire un petit peu ce qu'est Page à Page. Donc c'est une émission où le livre est le personnage principal et où je peux vous lire des extraits de livres que j'ai appréciés. Je peux inviter des écrivains actuels ou en herbe, et en herbe même. Je peux aussi vous parler d'un écrivain disparu. Je peux inviter également des professionnels du livre, c'est-à-dire un éditeur, un libraire, un bibliothécaire, une conteuse ou un conteur, et aussi des lecteurs et des lectrices qui peuvent venir nous parler des livres qu'ils ont aimés. Donc, toujours, vos suggestions, vos idées et vos souhaits sont les bienvenus sur l'adresse email de Page à Page, qui est clairelivre.com. En attaché en minuscule @yahoo.fr, yahoo YAHOO. Voilà, c'était pour la petite note pour reprendre contact avec vous, pour vous expliquer un petit peu Page à Page. Ensuite, nous allons passer comme d'habitude aux infos. Donc, quelques dates et quelques infos. La médiathèque va rouvrir ses portes ce dimanche, 4 septembre. Et vous savez qu'en mois de juillet ou mois d'août, elle était fermée tous les dimanches. Donc, elle rouvre à partir de ce dimanche 4 septembre aux horaires habituels de 14h à 18h. Ensuite, les contes pour enfants à la médiathèque José Cabanis reprennent également. Donc, c'est tous les mercredis à 11h, à part pour les petits de 3 ans à 5 ans. Et tous les mercredis également, mais à 15h, pour les plus grands à partir de 5 ans. Et ça se passe donc au rez-de-jardin de la médiathèque, au Teatro Piccolo. Voilà, je vous donne le numéro de la médiathèque donc pour cette animation de conte musical, de conte tout court, pardon, de conte. 05 62 27 40 00, 05 62 27 40 00, si vous voulez les appeler pour avoir un peu plus de renseignements. Mais donc, à partir de mercredi, les contes reprennent pour les enfants. Également à la médiathèque José Cabanis, pour le samedi 17 septembre à 17h, nous avons une lecture à deux voix en français et en espagnol, organisée par la compagnie Autre Mot, et donc une lecture faite par Anne Cameron, que j'avais invitée il y a quelques mois à Page à Page, et par Christian Marc. C'est une lecture d'extrait du chant général de Pablo Neruda. Donc il faut savoir que le chant général de Pablo Neruda est un poème épique en 15 chants et qu'il a été écrit pendant la clandestinité, enfin pendant que Pablo Neruda était en exil, et donc il a été publié en clandestinité en 1950. Et que dans ce chant général, il y a un chant plus spécifique qui s'appelle le chant général du Chili et qui justement parle de la douleur de l'exil, puisque donc Neruda l'a écrit pendant cette période d'exil. Et il faut savoir aussi qu'en fait le projet du poète chilien au départ était de faire un chant à la gloire de son pays, donc le Chili, mais qu'en visitant le Machu Picchu, Neruda a été saisi de l'intuition de l'unité historique du pays, enfin du continent latino-américain, Et c'est pourquoi, finalement, il a offert sa voix et sa plume pour parler au nom des opprimés et du continent en entier, donc du continent d'Amérique latine. Voilà, ça, c'était la petite parenthèse. Donc, je vous rappelle la date, samedi 17 septembre à 17h à la médiathèque José Cabanis. Donc, cette lecture en double voix, français et espagnol, que je vous invite vivement à venir écouter. C'est au petit auditorium au troisième étage de la médiathèque. Je vous rappelle encore le numéro 05 62 27 40 00. L'entrée est gratuite, alors venez nombreux et on se retrouve après une petite pause clin d'œil. Voilà.
Page à page, Claire Ambille.
Poupoupidou. Une petite pause musicale, Marc, pour reprendre tout à l'heure.
On la trouvait plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily. Dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris. Elle croyait qu'on était égaux, Lily. Au pays de Voltaire et d'Hugo, Lily. Mais pour Debussy, en revanche, il faut deux noirs pour une blanche, ça fait un sacré distinguo. Elle aimait tant la liberté, Lily. Elle rêvait de fraternité, Lily. Un hôtelier rue Secrétan lui a précisé en arrivant qu'on ne recevait que des blancs. Elle a déchargé les cajots, Lily. Elle s'est tapé les sales boulots, Lily. Elle crie pour vendre les choux-fleurs. Dans la rue, ses frères de couleur l'accompagnent au marteau-piqueur. Et quand on l'appelait Blanche-Neige, Lily, elle se laissait plus prendre au piège, Lily. Elle trouvait ça très amusant, même s'il fallait serrer les dents, ils auraient été trop contents. Elle aima un beau blond frisé, Lily, qui était tout prête à l'épouser, Lily. Mais la belle famille lui dit, nous ne sommes pas racistes pour deux sous, mais on veut pas de ça chez nous. Elle a essayé l'Amérique, Lily, ce grand pays démocratique, Lily. Elle aurait pas cru sans le voir que la couleur du désespoir, là-bas aussi ce fut le noir. Mais dans un meeting à Memphis, Lily, elle a vu Angela Davis, Lily, qui lui dit, viens ma petite sœur, en s'unissant on a moins peur des loups qui guettent le trappeur. Et c'est pour conjurer sa peur, Lily, qu'elle lève aussi un point rageur, Lily. Au milieu de tous ces gugus qui foutent le feu aux autobus, interdits aux gens de couleur. Mais dans ton combat quotidien, Lily, tu connaîtras un petit peu bien, Lily. Et l'enfant qui naîtra un jour aura la couleur de l'amour contre laquelle on ne peut rien. On l'a trouvée plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily. Dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris.
Nous revoici sur Radio Occitanie. Vous écoutez donc Page à Page avec Claire pour vous parler. Alors, je continue donc cette émission en voulant... comme je vous disais pendant les vacances, j'ai lu pas mal de livres, donc je vais vous en parler. J'ai choisi de vous parler d'un livre de Vladimir Fedorovski, un russe, comme son nom l'indique. Alors, il est né à Moscou en 1950. Il est docteur en histoire. Il est également diplomate. Il a été diplomate en 1972. Et il était attaché culturel aussi en France en 1977. Et après, il est retourné donc à Moscou au ministère des Affaires étrangères. Donc, voilà. Il est écrivain également, bien sûr. Et ses romans sont écrits en français. Et ils sont traduits dans de nombreux pays. Donc, je vais vous dire un petit peu ce qu'il a écrit pour vous donner quelques titres, pour vous donner des idées, si vous avez envie de faire connaissance avec lui. Alors, il a écrit « Le roman du Kremlin »,« Le roman de Saint-Pétersbourg »,« L'histoire secrète des ballets russes »,« Les tsarines »,« Diaghilev et Monaco »,« Les deux sœurs »,« La guerre froide »,« La fin de l'URSS », »,« de Rasputin à Poutine, le retour de la Russie, le triangle russe, le département du diable, les égéries russes, les égéries romantiques, histoire secrète d'un coup d'État et histoire de la diplomatie française. Voilà, il a écrit beaucoup de choses et il va en écrire encore beaucoup d'autres, on le lui souhaite. Donc, Vladimir Fedorovski, donc, je vais vous parler de son livre « Le roman de la Russie insolite ». Donc, je ne l'ai pas dit dans les titres parce qu'en fait, je me le gardais là pour maintenant. C'est le troisième ouvrage, en fait, d'un triptyque qui est formé par « Le roman » de Saint-Pétersbourg, qui a eu le prix de l'Europe en 2003. Alors, le roman de Saint-Pétersbourg, Saint-Pétersbourg, comme vous le savez, ville créée par Pierre le Grand, et où on peut admirer les nuits blanches au mois de juin. Et deuxième roman, donc, qui forme ce triptyque, le roman du Kremlin, qui a eu le prix du meilleur document en 2004, et donc qui raconte les secrets de la forteresse moscovite. Et donc, le troisième roman, c'est celui dont je vais vous parler plus précisément, qui s'appelle « Le roman de la Russie insolite ». Alors, ce livre... Ah oui, et en attente, voilà, il y en a un en attente, donc de Vladimir Fedorovski, qui s'appellera normalement le roman de l'Orient Express. Donc l'Orient Express, comme vous le savez, c'est ce train qui va de Paris jusqu'à Budapest en Hongrie. Donc celui-là, il est en projet, il n'est pas encore, je vous en reparlerai quand il sera sorti. Donc le roman de la Russie insolite, c'est celui dont je vais vous parler. Donc ce livre, en fait, commence par une carte qui retrace le trajet du Transsibérien. Alors, il faut savoir que le Transsibérien, c'est ce train qui va de Moscou au port de Vladivostok, au bord du Pacifique. Et il fait le trajet le plus long du monde, c'est-à-dire 9299 kilomètres, donc, de long. Donc, ce Transsibérien a été construit, donc, enfin, les rails, etc. Le trajet a été construit tout au long du XXe siècle par les différents tsars qui se sont succédés en Russie. Et dans ce livre, donc, on y parle aussi de trois femmes. Alors non, c'est pas la série de l'été que vous avez pu suivre sur Antenne 2. C'est trois femmes qui sont d'abord Alexandra, l'épouse du dernier tsar Nicolas II. Ainsi que la deuxième femme, c'est Inès Armand. C'est l'égérie et la maîtresse française de Lénine, qui fut militante et féministe aux côtés des bolcheviks. Et la troisième femme, c'est Catherine, qui est une espionne qui a tenu un journal tout au long de sa vie, qui a rencontré un Russe quand elle était jeune et qui a vécu une grande passion avec lui. Bon, il est mort prématurément et donc après, elle a gardé son attachement à la Russie, à l'âme slave et donc un attachement à ce pays. Et donc, elle a tenu un journal toute sa vie et c'est grâce à ce journal que ce livre, voilà, c'est au cours des récits de ces trois femmes, en fait, qui se mélangent. Et donc, Vladimir Fedorovski fait ressortir toute l'histoire de la Russie à travers, donc, le récit de ces trois femmes. Donc, ce livre évoque à la fois un voyage historique, puisqu'on y parle beaucoup des dates des guerres, des révolutions, etc. Pratique aussi, voyage pratique, parce que il indique des itinéraires, des monuments à visiter, enfin, tout ce que vous pouvez admirer en Russie. Il y en a énormément de choses à admirer. Un voyage aussi spirituel, on pourrait dire, parce que bon, ben la Russie, c'est aussi tout ce qui est chaman, religion orthodoxe, les sages, etc. Et moi, je pourrais rajouter également un voyage littéraire, parce qu'on y parle aussi des écrivains russes tels que Dostoïevski, Gogol, Bulgakov, Pouchkine, Tolstoï, et tous ces écrivains qui ont marqué leur génération ainsi que les générations suivantes, et dont les œuvres sont vraiment chargées de toute l'histoire de ce magnifique pays qu'est la Russie. Donc dans ce livre, le roman de la Russie insolite de Vladimir Fedorovski, on y parle aussi bien sûr de Staline, ce dictateur paranoïaque, féru d'hypnotisme et manipulateur invétéré, on y parle aussi de ses destructions massives et intenses de monuments et d'églises anciennes, mais on y parle aussi quand même de ses créations, parce que quand même il a créé quand même quelque chose, quelques petites choses, comme par exemple le métro de Moscou. en mai 1935, avec des stations superbement décorées, avec du bronze, du marbre, de l'or même parfois dans certaines stations, et des lustres, des statues, etc. Et ce métro, qui entre parenthèses abrite aussi un métro secret, et comme au Kremlin, on peut accéder à des endroits stratégiques par des couloirs secrets. Quoi. La Russie aime les secrets, on le sait, et donc le métro, comme le Kremlin, abrite beaucoup de passages secrets. Il a créé aussi l'université de Moscou, avec son étoile rouge qui est plantée en haut de la flèche de 240 mètres. Et puis on y parle aussi de ses nombreux monastères, puisque donc la Russie est très spirituelle, très religieuse. Donc un monastère dont par exemple Novodevitchi, qui est le monastère des Vierges, avec sa superbe collection d'icônes. Et on y parle aussi également, donc toujours dans ce livre de Vladimir Fedorovski, du lac Baïkal, la perle de la Sibérie, donc qui était au cours du voyage du Transsibérien. On détourne un peu du lac Baïkal, mais donc on en parle dans le livre, qui est long de 600 kilomètres et qui abrite une espèce disparue de phoque. Et voilà, ce phoque a disparu de toute la surface de la Terre, sauf dans cette région du lac Baïkal, la perle de la Sibérie, donc un lac magnifique. On y parle aussi de la ville de Yekaterinbourg, puisque le Transsibérien y passe également, et de la maison Ipatiev, lieu tristement célèbre, puisque c'est là où furent prisonniers Nicolas II, le dernier tsar de Russie, ainsi que sa famille, avant d'y être assassiné sur les ordres de Lénine le 16 juillet 1918. Donc voilà, tout au cours de ce voyage en transsibérien et par le récit de ces trois femmes, donc d'époques différentes et donc avec des histoires différentes, Vladimir Fedorovski retrace donc une partie de l'histoire de la Russie. Et le transsibérien conserve encore, même à l'heure actuelle, une aura romantique auprès des voyageurs étrangers, avec cette magie d'un long voyage, d'un long cheminement au fil de l'immensité de cette Russie si surprenante et si passionnée et si passionnante aussi. Et le livre donc dont je vous parle s'achève par une chronologie de l'histoire de la Russie, hein, qui est fort intéressante pour se remémorer la succession des tsars, etc., les dates des révolutions, des guerres, etc. On y voit aussi donc les dates de tout ce qui fait la Russie finalement, hein, ses croyances, ses révolutions, sa violence, son histoire teintée aussi de fatalité, de mélancolie et d'une grande spiritualité. Ça c'est très spécifique de l'âme slave de la Russie. Et ensuite, après cette chronologie, donc le livre s'achève sur une série de recettes de cocktails avec leurs noms et leurs compositions, qui sont bien sûr tous à base de vodka. Alors, il faut savoir que vodka, c'est le diminutif du mot vada, qui veut dire eau en russe. Et donc, si vous avez envie de vous plonger, dans le cœur de la Russie en buvant des cocktails, vous avez les recettes à la fin, donc, de ce livre.
Voici exactement, voici, messieurs, mesdames, comment l'amour creva mon horizon sans joie. Elle s'appelait Blanche et c'était une flamme. Mais oserais-je un jour chanter ce refrain-là? En entrant dans le lit, je l'ai sentie nerveuse. Sur le drap de couleur, sa chair devint rosée. Sa peau me criait viens et sa bouche fiévreuse murmurait pas encore, refusant mes baisers. Blanche, oh, ma Blanche, sauvage au rouge cœur, la courbe de tes hanches, je m'en souviens par cœur. Blanche était un volcan, c'était plus qu'une flamme, un brasier que nul homme n'avait pu allumer. Moi Moi j'ignorais ses dons, je ne sais rien des femmes. Et je n'ai su qu'après que j'étais le premier. Que ma plume aille droit s'il faut que je l'écrive, tandis que ses seins ronds échappaient à mes mains. Que ses cuisses fuyaient comme de truites vives. Moi fou, déconcerté, je n'y comprenais rien. Blanche, oh ma Blanche, ton regard suppliant d'animal pris au piège, je le revois souvent. Je me suis fait pêcheur pour attraper ces truites. Je me suis fait sculpteur pour mouler ces seins blancs. J'ai dû lutter des heures avec cette petite furie qui aiguisait sur moi ses jeunes dents. J'ai chevauché ainsi ma plus belle pouliche, alors que je traînais mon ennui dans Paris. Je cherche en vain depuis cette orchidée de riche qui dans ma pauvre chambre un beau soir a fleuri. Blanche, oh ma Blanche, sauvage au rouge cœur, le piment de tes lèvres est resté mon cœur.
Nous revoici donc dans votre émission Page à Page sur Radio Occitanie. Et donc je vous parlais du livre de Vladimir Fedorovski qui s'intitule Le roman de la Russie insolite. J'espère vous avoir donné des indications qui vous pousseront à le lire, à l'emprunter ou à l'acheter. Donc je vais vous en lire un petit passage pour vous donner un petit peu plus envie. Alors c'est un chapitre qui s'intitule Le suppôt de Satan. On va y parler dedans de Bulgakov, l'écrivain. On va y parler donc de la troisième femme qui s'appelle Catherine, l'espionne donc qui a tenu son journal intime et donc voilà qui raconte un peu. Et on y parle aussi de l'ambassadeur des États-Unis de l'époque qui s'appelle Bulit et qui a été un de ses amants donc à Catherine après le décès de son mari qui était russe. Donc je vous le lis. Le suppôt de Satan. Les réceptions fastueuses données par Bulit faisaient jaser le tout Moscou. Ainsi, le 25 avril 1935, Catherine se rendit-elle dans le magnifique hôtel particulier du quartier de l'Arbat, Spassa House, qui abrite aujourd'hui encore la résidence de l'ambassadeur des États-Unis. Mis à part Staline, tous ceux qui comptaient dans la capitale étaient présents, les intellectuels bolcheviques, les grands maréchaux, l'élite artistique, tous étaient venus chercher un moment de répit, hantés par la peur du goulag ou d'une arrestation arbitraire. Cravate noire et roblongue étaient de mise, exception faite des uniformes militaires. Il y avait cependant quelques entorses à cette étiquette, notamment le clandestin d'origine allemande, Radek, qui arborait en toute simplicité un habit de sport. La fête était pour le moins originale. Dans la salle aux multiples colonnes était reconstituée une ferme collective avec brebis, chèvres et même des oursons, sans parler des inévitables coqs qui commencèrent à chanter dès 3 heures du matin. 1000 tulipes furent livrées d'Helsinki. En décrivant cette réception dans un télégramme adressé au président Roosevelt, Bulit, sans fausse modestie, déclara que c'était la plus belle soirée de Moscou depuis la révolution d'octobre. L'ambassadeur était en effet un amateur de divertissements originaux et ses jeunes collaborateurs y participaient avec enthousiasme. En fondant son ambassade, il avait fait venir exclusivement des célibataires, espérant ainsi éviter la fuite des secrets par épouse interposée. Cependant, le contraire se produisit, car les romances moscovites des diplomates compliquaient fortement le fonctionnement de la représentation américaine. À l'heure actuelle, en une petite parenthèse, à l'heure actuelle, au niveau de l'ambassade américaine en Russie, c'est que des couples mariés qui y sont. Je continue donc la lecture. À dire vrai, Bulit n'était pas lui-même un paragon de vertu. Le plus souvent, il était accompagné à Moscou de sa fille Anne. Sa femme, soignée pour alcoolisme, était restée aux États-Unis. En dehors de son histoire parisienne avec Catherine, il eut deux autres liaisons affichées, l'une avec la secrétaire particulière du président Roosevelt et l'autre avec une célèbre ballerine du Bolshoï. Catherine, qui avait depuis longtemps tourné la page, ne se préoccupait guère des affaires de cœur de son vieil ami. Du moment qu'il lui consacrait du temps quand elle était là et lui faisait rencontrer des gens passionnants. D'ailleurs, l'homme qui l'impressionna le plus pendant cette réception n'était ni un homme politique ni un grand maréchal. Il s'appelait Mikhaïl Bulgakov. Défiant les habitudes vestimentaires des commissaires rouges, ce dandy portait costume à carreaux, gilet, nœud papillon, canne, gants et monocle, tout pour être envoyé au goulag. Ancien médecin devenu écrivain opprimé, il avait admis, précisément comme Catherine, qu'il fallait regarder le cauchemar stalinien à travers les rapports mystiques du bien et du mal. Pour Catherine, le modèle de Voland, autrement dit Satan, le personnage du roman emblématique de Bulgakov, Le Maître et Marguerite, n'était autre que Staline lui-même. Les relations entre les deux hommes furent d'ailleurs aussi étranges qu'ambiguës. Elles commencèrent avec la création d'une pièce de Bulgakov racontant les péripéties de la guerre civile en Ukraine. L'œuvre s'achève sur l'arrivée des bolcheviks, décrite sur un ton à la fois mystique et comique pour symboliser la venue prochaine du suppôt de Satan. Voilà, je vous laisse continuer la lecture, donc avec ce livre, le roman de la Russie insolite de Vladimir Fedorovski. Je vous retrouverai donc la semaine prochaine, jeudi prochain, à 9h30, comme tous les jeudis. Et surtout, je vous redonne l'adresse mail si vous voulez me donner vos idées, vos suggestions ou vos souhaits pour de futures émissions. C'est clairlivre, en attaché minuscule, @yahoo.fr. À jeudi prochain, bonne semaine. Boop-boop-be-doop.